Les informations du soir du 20 février en direct de Marseille sur BAM Radio ainsi que sur Radio Zinzine avec tout un tas de choses ce soir. On va bien sûr vous parler de Marseille, on va commencer avec un agenda, ensuite on a un petit enregistrement qui a été réalisé par Gaël aujourd'hui, puisqu'il y avait une sortie en mer du bateau SOS Méditerranée, qui est là pour venir en aide aux migrants qui se retrouvent en difficulté en Méditerranée. Et on va écouter ce document qui dure environ un quart d'heure, avec plusieurs intervenants et intervenantes. Ensuite, on passera aux informations nationales avec Alex, qui a une très bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle et une nouvelle mitigée. Surprise, il ne nous en a pas dit plus. Damien nous parlera un peu du CEA. Alors ça, j'imagine que c'est une bonne nouvelle. Et dans la deuxième partie des informations, on est ce soir avec Aydin, avec qui on va discuter de la situation au Kurdistan en Turquie. Et on commence tout de suite avec les éphémérides.
Oui, on va.
Ah oui, puis pardon, j'ai juste oublié de dire, il y a Gaël aussi ce soir.
Bonsoir.
Voilà, Damien qui fait la technique, Alex et bien sûr Aydin.
Et donc les éphémérides, nous sommes le 20 février. Le 20 février 1962, John Glenn fait le tour de la Terre. C'est le premier cosmonaute américain à faire totalement le tour de la Terre. Il accomplit son vol en 4h56 à bord de la capsule Mercury. C'est pas vraiment un éphéméride, mais c'est pour demain, c'est une devinette. Le 21 février 2006, donc c'était il y a 10 ans, il faut deviner qui a prononcé cette phrase. Donc je cite, « Vous avez fait du code du travail le bouc émissaire de votre incapacité à créer de l'emploi et fait de son démantèlement l'objet même de votre politique. » Cette phrase s'adresse à Dominique de Villepin qui fait le CPE et elle est prononcée donc par François Hollande, en fait, voilà, qui est en train de détricoter le code du travail actuellement avec la loi El Khomri. On peut poursuivre sur l'agenda, peut-être.
Ouais, on annonce demain, il y a un rassemblement à la Savine, dans les quartiers nord, chemin des Égalades, pour à la mémoire de Ibrahim Ali, qui était tué il y a 20 ans par des colleurs d'affiches du Front National. Tu voulais rajouter des choses, Damien, sur le... Non. Et si vous suivez, je suis sûr que vous suivez, les programmes de Radio Zinzine. À midi et demi, il y a une interview de Soli, un proche d'Ibrahim Ali, et qui revient sur cette histoire, et notamment par un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Terra Poésie, donc qui veut dire ou sous-entendre thérapie par la poésie, où c'est un ensemble de poèmes qu'il écrit chaque année, ce 21 février, en mémoire à Ibrahim Ali. Donc je vous invite toutes et tous à aller à ce rassemblement contre le racisme. C'est quoi l'énoncé contre la xénophobie et contre tous les fascismes? C'est peut-être pas dans l'ordre, mais c'est à peu près ça.
Et donc ensuite, le mardi 23, au Bal Perdu, 17 cours Julien, à 19h, vous pourrez écouter Nicolas Héringer de 350.org pour la justice climatique. Et donc ce sera un débat, conférence, au Bal Perdu. Donc ça c'est sur le désinvestissement des énergies fossiles, et je pense qu'on parlera de la COP dans ce débat. Le mercredi 24, le lendemain, au Foyer du Peuple, 50 rue Brady, à 18h, il y a une soirée de solidarité palestine avec le film Stop the Wall et la présence de la réalisatrice Muriel Jacoub qui sera présente. Le jeudi 25, à Transit, c'est à 19h, donc Transit c'est 45 boulevard de la Libération, pour écouter Florence Joshua qui est sociologue et qui présente son livre Anticapitaliste, qui est une socio-histoire de la LCR et du NPA et de cette forme de militantisme. Voilà. Le samedi 27, Je suis le peuple, ce qui est un film documentaire que vous pourrez voir aux Variétés, au cinéma Les Variétés, rue Vincent Scotto à Marseille. Je suis le peuple, c'est un très beau film, je l'ai adoré, qui retrace à travers une personne la révolution égyptienne, voilà, et les doutes de cette personne-là, de cet homme-là, les revirements de situation, et on suit la révolution à travers lui. Voilà, c'est un très très beau film. C'est une soirée qui est organisée par Aflam, et donc c'est le samedi 27 février à 19h au cinéma Les Variétés. Et dernière date, le 27, cette fois-ci c'est à Notre-Dame-des-Landes, c'est la manifestation de soutien, la manifestation contre la construction de l'aéroport, et en soutien aux personnes qui doivent payer une amende et qui sont expulsables. Voilà.
On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. Bah, peut-être qu'on enchaîne directement avec le document. Non, t'as des
Non,
choses
en
à
fait,
dire.
Moi, je voulais juste faire une info locale.
Ah, bah d'accord. Avant.
Oui, rapidement.
D'accord. Bon.
C'est juste, ça se passe à Port-Saint-Louis du Rhône. Et qu'est-ce qui s'est passé à Port-Saint-Louis du Rhône? Il y a des caissières qui se sont retrouvées au commissariat de police. Leur tort, avoir volé des paquets de bonbons à la fin 2015 en plein conflit social. Et Casino, donc la chaîne pour laquelle elle travaille, porte plainte contre ces caissières, contre ces 9 caissières, pour vol de bonbons. Elles se sont retrouvées à la gendarmerie. Donc la CGT dénonce un coup de pression et ça fait vraiment penser à la criminalisation des mouvements sociaux qu'on a pu voir Air France, les Goodyear, etc., etc.
Voilà, je continue quand même sur une nouvelle qui aujourd'hui, parce que ça fait aussi un lien avec la manif du 27, samedi 27 février prochain contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à savoir aussi qu'il y a eu pas mal, plusieurs actions aujourd'hui, avec des péages qui ont été bloqués dans plusieurs endroits de la France, Gap, Marseille, peut-être Nîmes, mais on n'est pas sûr, j'ai pas les informations pour ça. En tout cas, il y a aussi le péage d'Alençon qui était bloqué par une soixantaine de personnes aujourd'hui pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Alors l'intérêt des péages, c'est-à-dire qu'on bloque pas le péage, les gens ne peuvent pas, enfin peuvent passer, pardon. C'est on bloque le prix, hein, on soulève les barrières tout simplement, et au lieu de donner de l'argent à Vinci, on récupère de l'argent et on fait pas un prix fixe, on fait un prix libre, et ce qui permet de financer. Tous les frais, enfin de couvrir tous les frais qu'il y a autour de cette lutte de Notre-Dame-des-Landes, notamment des frais de justice. Et à savoir aussi que pour le péage d'Alençon, il y a la moitié de l'argent qui va aussi aux inculpés du Testet, parce qu'il y en a un paquet. Ils ont tous et toutes eu du sursis, mais des grosses amendes s'ils s'élèvent quand même à 40 000 euros. Voilà. Et c'était pour des petites informations locales. Et ben, je propose une pause musicale. On enchaîne avec les documentaires. Tu veux les. Non, les. Gaël les présentera après. Et peut-être on aura quelques infos aussi sur Marseille à vous redire. À tout de suite.
Sur Radio Zinzine et Radio et BAM Radio, et c'est les informations. On a pour vous quelques petits reportages qui ont été faits aujourd'hui à Marseille au J4. Et il y a une association qui s'appelle SOS
C'est
Méditerranée.
quoi le J4?
Le J4 à Marseille,
Il faut le dire pour la fois
c'est
qu'ils
un
connaissent pas
doc
Marseille.
à côté du Mucem. En face du Mucem, vous avez le J4. Il y a un bateau qui est affrété par SOS Méditerranée et Médecins du Monde. Ce bateau s'appelle l'Aquarius. Et ce bateau va partir bientôt. Est
parti.
Il est parti, d'accord. Je pensais qu'il allait partir demain. Et il va partir à Lampedusa, en Italie. Et le but de ce bateau, c'est d'aller secourir des migrants qui sont en naufrage. Donc, il y a une équipe médicale à l'intérieur, des marins. Et l'idée aujourd'hui à Marseille, c'était aussi de récolter des fonds pour que cette initiative continue, puisqu'elle doit s'arrêter au mois de mai. Et donc l'idée est de continuer après le mois de mai. On va écouter les reportages. Donc les deux premiers sont avec des médecins qui partent, qui embarquent donc ce soir. Et elles expliquent un petit peu le fonctionnement. Voilà, on y va.
ensuite, du coup, ici, c'est le lieu où on va faire la première identification des gens qui auraient des besoins de santé urgents. Et donc ici, on va pouvoir dire, vite, s'il faut les emmener à la clinique, il faut qu'ils soient soignés, ou on leur distribue juste un kit avec de l'eau, couverture, chaussettes à manger.
D'accord, donc là, c'est une salle où je vois des cartons.
Voilà. Il y a
quoi
dedans ? En fait, les cartons ne sont pas encore tous déballés parce qu'on est en train d'embarquer. Mais on va faire des kits, vous voyez, on va faire un sac. Et dans le sac, il y aura un certain nombre de choses que qu'on va donner à chaque personne qui va monter à bord. Donc, de quoi boire, de quoi manger, de quoi avoir chaud et de quoi se changer éventuellement. Et ensuite, ils vont passer dans la salle suivante.
Donc, on y va.
Et dans cette salle, c'est un endroit où les gens vont pouvoir être à l'abri. Parce qu'en fait, on peut faire venir à peu près 200 personnes à l'intérieur. Donc ici et dans certains endroits où il y a des couchettes pour les plus vulnérables. Et il pourrait y avoir aussi des personnes dehors. Mais en hiver, dehors, c'est pas conseillé. Donc voilà, on espère pouvoir faire venir les gens ici. Et ensuite, vous allez voir, le chemin continue vers la clinique de Médecins du Monde. Et c'est l'endroit où on va pouvoir faire...
Quand vous dites clinique,
c'est un poste de santé. Alors c'est avec des choses, des premiers soins basiques et éventuellement un petit lieu où on pourra faire réanimation, mettre des gens sous perfusion, surveillance médicale. Mais la plupart des gens en fait souffrent d'hypothermie, de déshydratation, ont des petites plaies, des brûlures chimiques à cause du fuel qui coule des moteurs dans les embarcations qui sont vraiment de mauvaise qualité. Donc on a une baignoire spéciale pour faire le traitement des brûlures chimiques et ensuite tous les premiers soins qu'on peut faire aux personnes. Et évidemment des antibiotiques, du paracétamol pour les soins plus courants. Et si vraiment il y a une urgence grave, il y a un hélicoptère qui peut venir pour faire une évacuation sanitaire. Et donc nous, on est en capacité de stabiliser des personnes jusqu'à ce que l'hélicoptère arrive. Voilà, dans les grandes lignes de ce qu'on pourra faire.
Et il y a un soutien psychiatrique, par exemple ?
Alors,
qui serait,
tout ce qui est la prise en charge psychologique, nous, on va travailler beaucoup sur la qualité de l'accueil, que les gens se sentent en sécurité, qu'ils puissent se reposer parce que la plupart sont épuisés et ont envie de dormir et de se sentir en sécurité. Donc on va organiser les gens par groupe, par nationalité, par communauté pour que tout le monde se sente bien et puisse se reposer. Et à terre, on préviendra les gens qui les accueilleront à terre des personnes qui auraient besoin d'une prise en charge spécifique. Et donc on a monté toute l'opération avec SOS Méditerranée depuis un an, Médecins du Monde. Alors là en fait c'est la direction des opérations internationales. Voilà, et du coup on a monté un partenariat avec SOS Méditerranée parce qu'on est dans une complémentarité d'expertise. Donc eux, ils savent affréter un bateau, ils savent faire du sauvetage. Nous, on sait faire du médical, de la prise en charge médicale. Et quand les migrants arrivent à bord, du coup, nous, on prend le relais du sauvetage. Et c'est là qu'on organise l'accueil et ensuite la prise en charge médicale si besoin. Oui.
On est tous là ?
Oui.
Il y en a une qui commence là.
Ok. Voilà, bienvenue. Moi, je suis Stéphanie. Comme je vous ai raconté, moi, je vais rester dans le bateau. Je suis un des médecins. Et notre coordinatrice est là. Le bateau et les médecins aussi. Comme vous savez, il y a deux organisations qui travaillent ensemble, c'est SOS Méditerranée, en partenariat avec Médecins du Monde. SOS Méditerranée va être plutôt en charge du sauvetage, c'est The Rescue Mission. Mais du moment que les gens arrivent dans le bateau, c'est MDM qui va être en charge. Ça se dit que MDM va avoir trois missions très importantes. Dans le début, c'est accueillir les gens et donner la nourriture, tout ce qu'ils ont besoin. La deuxième, c'est soigner les gens. Mais la troisième, c'est la plus importante, c'est faire le témoignage. Ce qu'on a envie de faire, c'est montrer aux autorités européennes qu'à cause de que les frontières sont fermées, il y a beaucoup de gens qui tous les jours risquent leur vie dans l'eau méditerranéenne. Ça, c'est le plus important qu'on a envie de faire. Bon, du moment que les gens arrivent sur les bateaux, ils vont être accueillis dans la salle qui est juste à côté. Et là-bas, on va faire un tri. Ça veut dire qu'après ça, on va classifier les gens dans les urgences médicales, les gens qui ont besoin des soins, et les gens qui, bon, pour atteindre, n'ont pas vraiment besoin d'une aide médicale. Les gens passeront là-bas, de là-bas, ils passeront ici, et ici, il va y avoir deux médecins et deux infirmières. Ça sera ici la consultation générale, et l'exploration, et tu sais. Ce côté-là, on a une salle de bain. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des gens, surtout les femmes, qui sont mis dans les bateaux, juste au fond des bateaux où sont la chambre de machine. Il y a beaucoup de carburant, des produits chimiques et la fumée. Et la plupart des gens qui sont là, c'est la majorité sont des femmes, arrivent avec des brûlures chimiques dans la peau. Donc, ce moment-là, passeront là pour être nettoyés. Et après, oui, et après, ça va. On va mis dans les soins médicaux.
Ouais. c'est Sam Carpegna qui est chanteur, qui chante en occitan notamment, était sur ce bateau. Il a interprété 3 chansons. Vous allez écouter l'une d'entre elles. Et juste après, il va évoquer une chanson je l'ai pas enregistrée, mais elle est significative et elle parle d'émigration. Et ça nous a semblé intéressant d'avoir aussi son témoignage. Voilà, donc on peut lancer.
Farà son cammin a battu lo popolo a Serchinco, fantasio sera l'endano. Popla montagna, popla montagna. Passa ben fermentati in fuori delle lenghe che da sbondo e rai sembra giovile sclavide ma pensato sa ventato di in lui che affigiasse mi premo l'aria sono crida l'avventuro li sentagli sa ventati in fuori delle lenghe che da sbondo e rai sembra giovile sclavide da pensare ai nago obla montagna obla la montagna obla montagna obla montagna disinsi la sin a gromeli ma canne a panta mandali su da le tapio se mandido ma e farà sul cammin popla montagna popla ne montagna le tapio se mandido ma e farà sul cammin da battere popla se ne chinco fantasio se la lendano per inventare l'endema senza spera di ma
ouais. Alors la chanson c'était Luca Regiaire, la première que j'ai faite en occitan provençal marseillais, donc c'est une chanson que j'avais écrite en 2001 à peu près, ça fait quelques bonnes années. C'est l'histoire d'un gars qui nage dans la mer et qui va rejoindre les côtes d'Europe. Et l'histoire, le Luca Regiaire, c'est celui qui transporte avec lui toute sa culture, son humanité. Et c'était un peu sur l'idée que, vu de chez nous, d'Europe, qu'est-ce que l'immigré ? En fait, c'est une personne qui amène une richesse avec lui. Et puis, au contact de ces richesses-là, notre culture à nous évolue un peu, pour reprendre les idées de, comment il s'appelait, la créolisation.
Césaire.
Pas Césaire, plus actuel là.
Chamoiseau.
Chamoiseau, voilà, le tout monde. Et son maître penseur à Chamoiseau, c'est Glissant, Édouard Glissant. Voilà. Donc c'est toutes ces idées de ces cultures qui se mélangent et qui en donnent des nouvelles. Et finalement, il n'y a rien à craindre de tout ça, au contraire.
C'est rhizomatique.
Voilà, c'est le rhizome, c'est ça, ouais, il reprend de l'os, tout ça.
Et donc le son qu'on vient d'entendre là, donc qui était à propos de SOS Méditerranée, il me semble qu'il faut préciser un petit peu le contexte dans lequel va se passer cette intervention, puisque c'est vraiment une intervention qui se fait un petit peu en fait et place d'une intervention d'État, que ce soit celle des gardes-côtes ou ceux des bateaux de la marine nationale. Alors on se souvient qu'il y avait Frontex qui gérait auparavant les frontières extérieures de l'Union européenne et notamment donc en mer qui avait une action. Et il y avait surtout Mare Nostrum qui était l'opération commandée et financée par les Italiens. Et ça leur coûtait très cher jusqu'au point qu'ils ont donc abandonné. Et au final on s'est retrouvé un petit peu dans un no man's land. Et donc la frontière sud-est européenne, on va dire, la frontière maritime, notamment entre le sud de l'Italie et la Libye, mais aussi à l'est de la Grèce, à la frontière avec la Turquie, ces zones ont connu une période où elles n'étaient plus du tout surveillées et où donc il n'y avait plus de bateaux pour prendre en charge les migrants qui pouvaient naufrager dans ces zones. Donc l'action là de SOS Méditerranée, donc le bateau va se positionner en haute mer, donc non pas dans les eaux italiennes mais dans les eaux internationales, et va entre guillemets stationner donc en haute mer en attendant que des appels de détresse soient captés et que des gens se retrouvent en détresse. Et dans ce cas-là, la législation internationale impose aux marins, quel qu'il soit, au bateau, quel qu'il soit, donc quel que soit leur pavillon, leur nationalité, ou le fait qu'ils soient des bateaux militaires ou pas, de toute façon, les bateaux doivent porter assistance aux naufragés, et c'est donc ce que fera le bateau de SOS Méditerranée, donc l'Aquarius. Il le fera pas tout seul, puisque c'est le MRCC, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un centre qui sont disséminés sur tout le littoral et dans tout le monde entier. Donc il y en a un par exemple en France qui est bien connu, qui est à La Garde, juste à côté de chez nous, mais le MRCC de Rome gère donc cette zone du sud de l'Italie, et c'est elle qui va donc coordonner les secours. C'est-à-dire que même si l'Aquarius se situe dans une zone où il y a des naufragés, il est obligé d'aller lui porter secours, mais d'autres navires peuvent être obligés par le MRCC d'aller porter assistance aussi. Et donc l'idée, c'est que l'Aquarius ne va pas prendre en charge tous les migrants, et surtout ne va pas les prendre en charge pendant très longtemps. L'idée, c'est de patrouiller, de récupérer les gens qui font naufrage, et de les remettre ensuite à la marine italienne ou à n'importe quel navire qui fera route dans ces eaux, et qui pourra lui être détourné par le MRCC pour ramener les migrants sur les côtes européennes. La seule garantie que donne SOS Méditerranée, c'est que ils ne seront pas remis aux autorités libyennes par exemple, et qu'ils ne seront pas envoyés de l'autre côté de la Méditerranée. Ils seront bien ramenés en Europe, mais pas forcément par l'Aquarius, qui lui préfère rester patrouiller en haute mer, et donc les transférera sur d'autres bateaux.
Et on va continuer avec un dernier petit reportage. En marge de cet événement, en marge de la venue de l'Aquarius au J4, à côté du Mucem, il y avait une batucada qui a commencé à jouer sur le vieux port, puis ensuite devant la mairie, et ensuite au J4. Cette batucada, c'est les Moulets Kétou, qui est une batucada un peu historique à Marseille, mais qui ce coup-ci a fait venir des gens qui sont actifs notamment au Mamba, auprès du collectif Soutien Migrant 13, et notamment donc des Soudanais ont joué dans cette batucada aujourd'hui. Et là, c'est un petit entretien, une petite interview avec Laura de la batucada. On la lance. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ?
Ah bah, aujourd'hui, on est venu faire un spectacle. On est venu montrer la musique qu'on a apprise à jouer dernièrement avec des copains qui viennent un petit peu du bout du monde.
Quelle musique ?
On a joué de la musique brésilienne, ça s'appelle la batucada, c'est du samba reggae. Voilà.
Et le nom de votre groupe ?
On s'appelle Moulets Kétou, c'est une école de musique associative. Et on a créé un atelier qui s'appelle Musique pour tous, pour partager cette musique en fait, et c'est un atelier de musique qui se veut un espace d'expression et de partage gratuit à Marseille, et qui permet à des personnes qui n'ont pas les moyens ou qui sont en rupture sociale ou en détresse de pouvoir s'exprimer sur la place publique et montrer aussi ce qu'ils savent faire, et pour changer un petit peu la donne, disons.
C'est où en fait l'atelier ?
Alors l'atelier, nous on répète au studio de Canis, chez Bruno, c'est un endroit très sympathique. D'accord. Voilà, vous pouvez aussi venir voir une répétition, c'est à la rue Cat d'Olive.
D'accord, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait des répétitions au Mamba.
Alors on a essayé, à vrai dire, et c'est vrai que c'est
alors,
une...
Alors juste le Mamba, donc c'est un
Alors
squat.
Le Mamba, c'est un squat qui est géré par le collectif Soutien Migrant 13, desquels font partie toutes les personnes que vous avez jouées aujourd'hui. Et donc c'est un lieu ouvert, c'est un lieu d'accueil dans lequel on mène pas mal d'activités, on répare des vélos, on vend des meubles, on fait des AG, des projections. Et en effet, on aimerait bien pouvoir...
Le Jair, c'est celui qui transporte avec lui toute sa culture, son humanité.
Donc on soutient.
Vous jouez dans des manifestations ou...
Tout à fait. Ben, on est un collectif de musique engagée et donc on soutient en effet les manifestations qui se déroulent ici à Marseille pour plein de causes différentes.
Et il y a des prochaines dates ?
On va jouer pour le Carnaval de la Plaine, qui est en soi aussi un carnaval militant. Oui, tout à fait. Voilà, donc vous pouvez nous voir jouer le 13 mars.
D'accord, vous avez un caramontran aussi ?
Bah, ce sera celui du Mamba.
Ça, celui du Mamba, voilà. D'accord, super. Bah, merci beaucoup.
Bah, merci à toi. Salut.
Oui, il y a une petite confusion au niveau de la technique. Pas de souci, on a repris les choses en main. Dernière information sur Marseille, tout de même, à noter que maintenant, la CAF, les bureaux de la CAF seront fermés le jeudi, donc n'y allez pas hein, si vous êtes allocataire de la CAF, parce que faudra faire la queue le lendemain, tout simplement, parce que les employés devront gérer 16 000 dossiers supplémentaires du fait du versement de la prime d'activité. Et Force Ouvrière a obtenu satisfaction dans le cadre du préavis de grève déposé pour le lundi 29 février. À savoir qu'à compter du 3 mars 2016, la totalité des points d'accueil de Marseille seront fermés le jeudi pour pouvoir absorber la charge du travail en retard et traiter les dossiers en attente. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite pour les informations nationales avec Alex.
Shadow Tricks de Bonobo. On revient avec les informations nationales. Hein. Mathéo nous parlait de la CAF qui serait fermée le jeudi. Eh bien, on va enchaîner sur quelque chose qui pourrait nous permettre de ne plus avoir besoin de la CAF. En effet, ce 2 février, la présidence du Sénat a enregistré une proposition de résolution pour l'instauration d'un revenu de base. Donc elle est présentée comme une application de l'article 34.1 de la Constitution par les membres du groupe écologiste. Elle devrait être examinée par le Sénat début mars. On peut espérer que l'impulsion de nos voisins des Pays-Bas, de Suisse ou de Finlande, ou que les expérimentations positives qui ont eu lieu au Canada, en Alaska ou en Inde, pèseront favorablement dans la balance pour le revenu de base. Voilà, on va continuer maintenant avec une nouvelle un petit peu moins bonne, hein, on va dire mitigée. C'est le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé ce vendredi sur la loi du 20 novembre 2015 relative à l'état d'urgence. Alors, le lendemain, les unes de journaux étaient mitigées, elles aussi. Hein. On pouvait lire soit les optimistes, qui nous disaient que le Conseil constitutionnel avait censuré une partie de cette loi, hein, notamment l'alinéa 3 de l'article 11 relatif à la copie des données informatiques lors des perquisitions administratives. Le Conseil constitutionnel a décidé que copier l'intégralité des données lors d'une perquisition administrative s'apparentait à une saisie et donc devait être soumis au contrôle du juge judiciaire. Mais le problème, c'est que le Conseil constitutionnel, en censurant cette partie, a quand même validé tout le reste de la loi du 20 novembre 2015 relatif à l'état d'urgence. L'état d'urgence, qu'on le rappelle, a été prolongé jusqu'au 28 mai, si je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être le 26, j'ai un doute sur le jour exact. Mais bon, de toute façon, on pense bien qu'on aura un vote un petit peu avant pour éventuellement le prolonger encore un peu.
Ouais, sachant que à la fin du mois de mai, on approchera du mois de juin, fatalement. Et au mois de juin, en France, vous savez ce qu'il y a ? Il y a l'Euro de foot. Donc je vous laisse deviner si on va supprimer l'état d'urgence pour l'Euro de foot. C'est... voilà. On attend vos réponses pour le 1er avril.
Voilà, donc suite à cette décision, on peut quand même noter que les données saisies lors des plus de 3000 perquisitions qui ont été effectuées sous l'état d'urgence doivent être supprimées sans délai. Hein. Mais par contre, cette décision nous fait quand même nous questionner sur la position de notamment trois personnes qui sont Monsieur Valls, Monsieur Cazeneuve et Monsieur Urvoas. En effet, ce dernier était rapporteur de la loi qu'il a fermement défendu à l'Assemblée, notamment en rejetant des propositions d'amendements qui avaient pour but d'encadrer plus strictement les restrictions de liberté. Et pendant ce temps-là, ces messieurs Valls et Cazeneuve utilisaient tous les moyens de pression qui étaient à leur disposition pour que le Conseil constitutionnel ne soit pas saisi au moment du vote de la loi. Hein, encore une fois, on est dans une belle démocratie avec un gouvernement socialiste. Voilà, on va continuer avec une nouvelle encore un petit peu moins bonne. Hein. Donc celle-là, c'est nos collègues de Mediapart qui nous l'ont révélée. C'est la justice française qui est suspectée de faire obstacle aux poursuites contre la surveillance de masse. En effet, la Ligue des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits de l'homme avaient déposé en 2013, suite aux révélations d'Edward Snowden sur le programme PRISM de la NSA, une plainte au niveau de la justice française contre la NSA et contre ses partenaires, dont notamment la DGSE, donc les services de renseignement extérieur de l'État français. Cette plainte a été jugée sans suite par la justice et du coup la FIDH et la LDH ont décidé de se constituer partie civile pour forcer la justice à examiner le dossier. Pour cela, il est commun de mettre une caution, de remettre une caution à la justice qui, au cas où l'accusation est diffamatoire, servirait d'amende. Cette fois-ci, la justice a demandé un versement de 13 000 euros. Pour pouvoir se porter partie civile dans cette affaire. Hein. Chose que Fabrice Arfi, le journaliste de Mediapart, décrit comme du jamais vu de mémoire d'avocat pour ce type de dossier. Et les avocats de la FIDH rappellent que normalement ce versement symbolique n'excède jamais quelques centaines d'euros, hein, 500 par exemple pour l'affaire d'Amésis. Amésis qui était suspecté quand même de crimes contre l'humanité, notamment avec de la vente de matériel de surveillance massive au Moyen-Orient. Voilà, c'était le petit point national.
Et de retour en direct sur BAM Radio et sur Radio Zinzine. Et on est avec Aydin ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Et tu es venu pour nous parler plus précisément de la situation au Kurdistan. Voilà.
Oui, donc Aydin, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour resituer pour les auditeurs qui ne sont pas familiers du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, qu'est-ce que c'est que ce peuple kurde ?
Alors le peuple kurde, c'est un peuple de, on estime donc un peuple de 40 millions, bien sûr c'est des estimations, qui sont divisés ou qui ont été divisés entre quatre pays, donc la Turquie on estime vers 20 millions, l'Iran vers 12 millions, l'Irak 6-7 millions et la Syrie 3 millions, donc ce peuple donc a été un des principaux peuples qui ont été victimes de la Première Guerre mondiale, dont le découpage des cartes au Moyen-Orient entre les puissances. Et voilà, donc ce peuple s'est vu partager son territoire entre ces quatre pays. Et bien sûr, ces pays, avec la constitution d'un État-nation basé sur une culture, sur une langue, sur une identité, a nié l'existence des Kurdes et bien sûr a nié aussi leurs droits et le plus élémentaire, donc notamment parler leur langue, etc. Donc voilà, donc c'est un peuple en lutte, qu'on peut dire, donc une lutte qui est engagée depuis une quarantaine d'années en Turquie, peut-être un siècle en Irak, qui a abouti peut-être un peu, donc qui a abouti à des droits. Donc en Irak, le statut des Kurdes est reconnu, donc il y a une fédération kurde. Par contre, le reste en Turquie, en Iran et en Syrie, donc les Kurdes continuent à ne pas exister politiquement et bien sûr sur le droit. Donc c'est un peuple qui n'existe pas et les revendications de ce peuple sont vues comme des revendications terroristes. Donc qu'il faut voilà des revendications terroristes qu'il faut réprimer. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Turquie et c'est ce qui s'est passé. En Irak avant, donc sous Saddam, c'est que c'est passé en Syrie jusqu'à 2012. C'est que se passe toujours en Iran. Donc,
alors peut-être pour démarrer, quelle est la situation actuelle là en Irak, par exemple,
pour démarrer. En Irak, comme je disais, le parti du Kurdistan irakien est reconnu nationalement et internationalement, donc les Kurdes en Irak existent. Par contre, le Kurdistan autonome irakien donc, a d'autres problèmes maintenant, notamment des problèmes sociaux, politiques et économiques. Donc, ils ont aussi sujet des attaques de Daesh en 2014. Notamment, la communauté yézidi, la communauté kurde de confession yézidi a été ciblée. A échappé juste du génocide, donc c'est grâce aux Kurdes de Turquie et aux Kurdes syriens que cette communauté a été sauvée. Voilà, donc ça va un peu mieux. Donc par contre, c'est qui voilà le sujet peut-être, c'est peut-être la question, c'est comment vont les Kurdes de Turquie et de Syrie et d'Iran. Ouais.
Et alors donc justement, en Syrie, il semble que à la faveur entre guillemets du chaos syrien, il y ait un Kurdistan qu'on appelle Rojava qui soit en train d'émerger.
Voilà, Rojava, c'est ce que veut dire le Kurdistan ouest. Donc, en effet, les Kurdes syriens qui ont participé au début donc à l'envie de changer le régime, changer le pays, donc démocratiser le pays, ont participé aux marches. Et en 2012, avec la faiblesse du régime, donc due à la présence de l'armée du régime sur différents fronts, les Kurdes ont profité pour prendre le contrôle de territoires qu'ils vivent. Et en effet, depuis, ils expérimentent une expérience nouvelle, donc qui ne vise pas la création d'un État-nation ou d'un État tout court, mais qui vise une nouvelle société, donc une nouvelle façon de vivre en Moyen-Orient, c'est-à-dire donc donner un exemple concret comment une société peut vivre, peut s'organiser sans l'État, et puis comment une société peut se défendre sans passer par une armée de l'État, et comment les peuples qui vivent ensemble peuvent cohabiter sans créer un lien de hiérarchie, donc une identité dominante ou dominée, sans créer des classes dominantes ou dominées, donc se gouverner à travers des instances démocratiques comme les assemblées, les communes, donc par la démocratie directe, démocratie athénienne. En effet, c'est une expérience en cours qui est révolutionnaire. C'est une expérience révolutionnaire qui marche pour l'instant bien. C'est une expérience qui fait ses preuves, car aujourd'hui, le cure syrien, avec cette expérience, ils font face à Daesh. Et récemment, notamment hier, ils ont libéré le bastion de Shahadadi au sud de Hasaké, dans une campagne de 3 jours avec leurs alliés arabes, syriaques et turkmènes. Daesh ne fait plus force face à cette coalition des peuples et des envies, de la liberté, de la démocratie. Voilà, donc pour les Kurdes syriens, les choses vont bien, je peux le dire, qu'avant, ça c'est sûr. Donc avant, on peut dire que la crise syrienne, le chaos syrien
On t'avait reçu notamment un moment très, très difficile, qui était la bataille de Kobané.
Oui, donc la bataille de Kobané était le point tournant de la crise syrienne en général. Donc c'est dans cette bataille que l'avenir de Daesh s'est dessiné, c'est-à-dire donc pas d'avenir pour Daesh en Syrie. En effet, les Kurdes, avec leurs grands sacrifices, ont pu stopper l'avancée de Daesh une fois pour toutes. Donc, et depuis, c'est la chute libre pour Daesh. En fait, le Kobané était le Stalingrad du Moyen-Orient, donc a joué ce que la ville de Stalingrad a joué pour le nazisme, et Kobané a joué le rôle de Stalingrad contre Daesh. Et depuis, donc, il n'y a rien qui va pour Daesh. Donc maintenant, le menace pour les Kurdes syriens, ce n'est plus Daesh, parce que Daesh est militairement vaincu. Le menace n'est pas, on va pas dire... Non, c'est faux de dire n'est plus. On peut dire pour l'instant n'est pas Assad, mais par contre ça n'empêche pas que ça soit le problème dans le futur. Mais pour Rojava, le problème maintenant, c'est l'attitude de la Turquie.
Alors, on rapporte que les troupes syriennes dans certains endroits combattent avec les troupes du régime syrien.
Non, en fait, ça aussi, c'est beaucoup de propagande, parce que la guerre de propagande, elle est en cours aussi. Par exemple, les personnes qui sont anti-Assad, pour légitimer leur attaque contre le Kurde, ils légitiment par « oui, mais c'est de collabo de Assad, donc il faut les combattre aussi ». Donc la Turquie fait cette démagogie. Les rebelles chapeautés par la Turquie et l'Arabie Saoudite, les rebelles entre guillemets, hein, ce sont des islamistes qui visent à créer un État djihadiste, un État islamiste, un État de charia en Syrie. Donc ils utilisent le même discours pour légitimer. Donc Assad, de l'autre côté, il fait un peu pareil aussi pour légitimer son discours. Il dit oui, mais les Kurdes, de toute façon, ils sont c'est moi qui fais en sorte qu'ils sont toujours debout. Mais c'est pas la vérité aussi. C'est pas Assad qui s'est battu à Kobané. Ce n'est pas c'est les Kurdes avec leur force militaire. Donc en fait, même pas militaire, leur force de résistance. Et puis aussi avec leur vision révolutionnaire. Donc ils ont résisté. Et maintenant, ils proposent quelque chose que ni Assad il a. Donc Assad ne prévoit pas une démocratie pour la Syrie, et ni les islamistes. Donc maintenant, on cherche à récupérer un petit peu cette victoire. Maintenant, on veut le récupérer. Il y a les États-Unis, il y a même la France à un moment donné. Ils voulaient récupérer ce victoire.
Donc là, on est en train de parler du Kurdistan syrien, du Rojava, qui se situe donc au nord-ouest de la Syrie et au sud-est de la Turquie. Mais c'est donc une frontière, cette zone.
Le Rojava se situe au nord de la Syrie.
Ouais.
C'est l'ensemble du nord de la Syrie. D'ailleurs, donc, ce nord de la Syrie est contrôlé par les forces du Rojava, donc que ce soit kurdo-arabe. Pratiquement sur la totalité du territoire, il reste juste 90 km où il ne contrôle pas. Donc, 80 km sur 90 km, si je ne me trompe pas, est contrôlé par Daesh, et 10 km par Al-Qaïda. Donc, tout toute la peur de la Turquie, c'est cette 90 km aussi, car si cette 90 km est coupée, ça veut dire libérée de Daesh et d'Al-Qaïda, la Turquie n'aura plus aucun contact avec la Syrie, ce qui voudra dire que la Turquie est poussée à l'extérieur du conflit syrien et aussi de table de négociation. Et la Turquie ne veut surtout pas que cela arrive. Et donc, d'où vient aussi la guerre totale aux Kurdes de Turquie et de Syrie. Ouais.
Alors justement, on a commencé à l'évoquer, mais quelle est la situation actuellement en Turquie entre les mouvements kurdes? On se souvient qu'il y avait eu des élections où le HDP avait privé de sa majorité l'AKP de Erdogan. Quelle est la situation en ce moment?
Préciser que le HDP, ouais. C'est... Enfin, ce que c'est, quoi.
Oui, alors qu'est-ce que c'est le HDP d'ailleurs?
Alors HDP, c'est un corps comme en Rojava, donc c'est une partie politique qui s'est réunie avec les principes de confédéralisme démocratique, c'est-à-dire donc l'union de toutes les forces démocratiques et aussi un petit peu opprimées, l'union de ces forces pour créer une alternative. Aux idées gouvernantes, ça veut dire au nationalisme ou aux partis gouvernants donc libéraux en Turquie. Donc voilà, HDP de ce côté-là, c'est une parti politique qui vise une Turquie démocratique, plurielle, écologique et qui exclut l'exclusion des femmes, donc qui prévoit une égalité pour l'émancipation pour les femmes donc en Turquie. Voilà, donc HDP a fait un score de 13% au niveau national, donc avec 6 millions de voix. Bien sûr, ce 13% avec les conditions qui sont dedans, c'est grand, car il était privé de tous les moyens que les partis politiques classiques bénéficient. Donc c'est une partie politique qui est vue comme, pour l'État, comme un danger. Donc l'État fait tout pour limiter ce parti politique. Donc il y a eu deux élections. Le premier, donc le 7 juin, où Erdogan a perdu le pouvoir. Et deuxième, le 1er novembre, où Erdogan a fait appel aux autres élections pour annuler ces de 7 juin. Et entre-temps, Erdogan a déclenché une mécanique pour reprendre le pouvoir un petit peu par la terreur, si je peux me permettre, donc à terroriser, à criminaliser, à viser, à attaquer HDP sur tous les bords. Donc c'est un petit peu... c'est un petit peu dû à ça que Erdogan et l'État turc, car aujourd'hui ils sont devenus un petit peu le même, tous les deux, ont commencé la guerre contre les Kurdes. Donc Erdogan voulait provoquer la haine et le nationalisme pour faire en sorte que HDP soit effacé du paysage des villes turques. Et c'est qu'ils ont réussi un petit peu, car ils ont incendié pratiquement tous leurs locaux, ils les ont lynchés. HDP a subi deux bombes. Attaque à la bombe, donc qui a causé une fois 5 morts, mais une fois 105 morts, une fois 3 bombes, 3 attaques, une fois 32 morts. Donc en effet, HDP a même arrêté sa campagne, donc a arrêté ses meetings, a arrêté tout, parce qu'il n'y avait plus les conditions de faire la campagne. Donc Erdogan a eu les deuxièmes élections sous cette atmosphère. En fait, on peut même dire, donc, est-ce que en Turquie, le pouvoir en place, est-ce que ce pouvoir est légitime? Ben non, car ce pouvoir ne peut pas être légitime, même entre guillemets avec la démocratie libérale, ce pouvoir ne peut pas être légitime, car ce gouvernement n'a pas respecté ses lois ou sa constitution ou les règles de la démocratie des urnes, n'a respecté. Donc voilà. Et voilà. Erdogan, par contre, pour revenir au pouvoir, a déclaré la guerre totale aux Kurdes, et cette guerre totale en transformant cette guerre totale aussi contre les Kurdes de Syrie, en transformant les Kurdes de Syrie et leurs acquis à une menace contre sa sécurité nationale. Et voilà, la Turquie se trouve aujourd'hui en guerre totale contre les Kurdes de Turquie et même de Syrie.
Et là, donc, quand on parle de guerre en Turquie, on parle donc d'une guerre civile, mais d'une guerre réelle avec des chars, avec des villes qui sont... qui sont bombardés, ça ressemble à quoi concrètement le conflit kurde actuellement dans l'est de la Turquie?
Bien sûr, je pense que c'est une question pertinente. En effet, c'est une guerre des chars contre des pierres et des barricades. Voilà, c'est que c'est
et pas parfois dans des centres-villes, il m'a semblé.
Que dans les centres-villes, pas parfois. Maintenant, que dans les centres-villes. 16 villes de différentes tailles ont été assiégées et mises sous couvre-feu depuis juillet 2015. Et 3 de ces villes ont été détruites complètement. Donc Dizré, Selopi, donc Nusaybin en partie, et Sour, ils sont en train de détruire. Donc ils sont détruits complètement avec des chars. Donc ils ont rentré, ils ont tiré sur tout ce qui bouge devant les yeux du monde entier. Hein. Donc ils ont justifié ça par « moi je combats le terrorisme ». C'est quoi le terrorisme? Ah ben ils ont mis des barricades. Mais ils ont mis les barricades contre les arrestations qui avaient commencé avant les élections, c'est-à-dire des arrestations massives. Ils ont arrêté 4-5 000 personnes en une semaine, en deux semaines. Donc les jeunes, pour se protéger, ils savaient qu'ils vont venir les prendre.
Alors justement, qui sont ces militants qui combattent l'État turc?
Alors il y a les militants. En fait, au départ, c'était les militants de YDGH. YDGH, c'était le mouvement de jeunesse kurde. C'est un mouvement de jeunesse kurde à la base pacifique, bref, non armé. Donc, ils sont très radicaux, mais au niveau de leurs actions, mais c'est des je veux dire, jusque-là, ils s'opposaient à l'État turc avec des pierres ou avec des molotovs au maximum. Mais ce sont ces jeux-là qui ont commencé au départ, creuser des tranches et ériger des barricades. Et par contre, après, donc, ça se généralisait. Donc, plusieurs quartiers dans chaque de ces villes-là ont participé à ces mouvements. C'était des quartiers, des bastions de mouvements, de mouvements de la résistance kurde, donc au niveau populaire, au niveau de la population. Et en effet, l'armée turque, la police spéciale turque ont envoyé les chars pour casser ces quartiers-là. Et bien, ils ont détruit ces quartiers-là, ils ont détruit complètement ces quartiers-là. Ils ont tiré avec des obus de chars sur les immeubles de ces quartiers-là, alors que les gens étaient encore dedans. Donc c'est ça. Oui, il y a une guerre, entre guillemets, injuste et inégale. Hein, donc c'était des chars contre le peuple. Voilà, c'est que c'est passé, c'était ça. C'est des chars contre l'armée, contre le peuple.
Là, on parle d'une certaine forme de terrorisme d'État, mais... Dans le même temps, l'État turc accuse les mouvements kurdes de terrorisme aussi.
C'est exactement ce qui se passe. Donc, les États terroristes accusent les autres du terrorisme, alors qu'il suffit de voir un petit peu comment les choses se développent pour voir que il y a l'autodéfense, il y a du terrorisme de l'État et l'autodéfense contre ce terrorisme. Donc, il y a une envie de se protéger contre ce terrorisme. Mais voilà, la Turquie, encore une fois, c'est une membre de l'OTAN. Candidat à l'UE qui a menacé récemment l'UE donc par les réfugiés et donc la Turquie utilise très bien tout cela ensemble. Donc aussi c'est une grande force de consommation de la technologie européenne. Chaque fois quand il vient en Europe, il signe des contrats au niveau des milliards. Donc bien sûr les États européens ou les institutions européennes ferment les yeux contre le massacre des Kurdes. Ça les dérange moins, voilà. Donc, il s'agit de la Turquie, donc une alliée. Et la Turquie utilise très bien sur cette diplomatie et aussi avec les médias, avec la force qu'elle est. Donc, elle transforme les choses complètement. Donc, elle présente ses actes terroristes comme des actes légitimes et les actes légitimes comme des actes terroristes. Et voilà. Donc, de ce côté-là. Je pense que cette fois, ils n'ont pas réussi quand même. Cette fois, ils n'ont pas réussi à passer cette image que les Kurdes sont des terroristes et moi, je suis légitime à les écraser. Je pense que ce qui se passe dans le monde, c'est un petit peu l'inverse. Et qu'on commence à voir l'ampleur de la chose et que même les États alliés des bons amis d'Erdogan sont en train de voir le vrai visage de l'État turc d'Erdogan. Notamment, il y a eu des leaks, il y a eu des documents qui ont été publiés dans une média grecque, donc des comptes rendus des réunions entre Erdogan et Juncker. Juncker, je ne sais plus quelle est sa situation, je crois que c'est le responsable, le porte-parole de l'Union européenne, donc il négociait sur les réfugiés, Erdogan menaçait Juncker. Ben, si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous envoie les réfugiés avec des bus. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le tuer. Donc, il utilisait les réfugiés comme une moyen de pression. Donc, voilà, donc l'État turc utilise tous ses moyens pour faire taire tout le monde. Voilà.
Et cette réaction donc terrible de l'État turc, comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce qui peut effrayer cet État turc?
C'est la peur. Il voit. Mm-hmm. L'État turc voit que les Kurdes sont capables de créer quelque chose qui vive, qui est crédible, qui est populaire. Donc ils l'ont expérimenté au Rojava. Ils sont capables de se gouverner, de se gérer, s'autogérer, de se défendre. Donc il y a un système démocratique et populaire qui a pris de racines dans la société kurde. Donc l'État turc pouvait régler cette question de deux manières. Donc c'était sur la table, avec les négociations, avec le changement de la constitution, la reconnaissance de l'identité kurde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de les viser pour les exterminer. C'est déjà ça. Donc, et deuxièmement, l'autonomie démocratique, c'est ce que nous on appelle l'autonomie démocratique, c'est-à-dire laisser les Kurdes s'autogérer.
Est-ce que sur le plan international, les Kurdes ont trouvé des soutiens?
Voilà, donc je viens juste à... Et deuxième choix de la Turquie, c'était les écraser militairement, donc comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Et l'État turc a préféré engager une guerre sans merci, donc à voir, là ils sont en train de détruire des villes entières, ils pensent à dépopuler, décurdiser des zones entières, énormes des zones, grandes comme la Belgique, donc voire plus. Ils utilisent la force pour venir à leur but. Donc le choix qu'ils ont choisi pour l'appliquer bien, pour faire peur bien, donc il fallait qu'ils frappent fort au début. Ils ont frappé très fort, ils ont mis des couvre-feux, ils ont assiégé des villes et ils ont appliqué des couvre-feux. Le couvre-feu de Sur, la vieille ville de Diyarbakir, dure depuis 80 jours, donc 24 heures sur 24. Ils ont le droit de tirer sur tout ce qui bouge. Donc c'est des couvre-feux de 24 heures sur 24. À Dizre, c'est depuis 70 jours, je crois.
C'est des villes turques, si je comprends bien, qui sont sous occupation turque.
C'est des villes kurdes sur la territoire de la Turquie sous l'occupation de l'armée. C'est un petit peu ça. C'est vrai que c'est compliqué. Donc donc l'État turc voulait faire peur, donc a frappé fort sur la ville, les premières villes qu'il voulait détruire pour faire peur, pour que les autres se rendent, ne résistent pas. Ce truc-là n'a pas marché du tout. Au contraire, ça a augmenté la détermination. Et après, quand je viens rapidement à ta question, non. Là, je peux le dire clairement, non, les Kurdes n'ont pas de soutien d'extérieur. Les Kurdes de Turquie, de toute façon, ils ont vu comme terroristes par tout le monde. Hein, donc, chaque fois, les États-Unis nous montrent une déclaration qu'ils font. Oui, le mouvement kurde de Turquie, c'est un mouvement terroriste. Donc, on est solidaire avec la Turquie. Après, le Kurde de Syrie... comme ils sont la seule alternative crédible, donc à la fois face à Daesh, à la fois face à Al-Qaïda et à la fois face à Assad, et que pour pouvoir rester un petit peu sur la table de négociation, donc certains pays occidentaux, notamment les États-Unis, les soutiens donc au niveau de frappe aérien. Par contre, ce soutien est utilisé pas forcément aux intérêts des Kurdes sur les tables de négociation. Donc, au contraire, donc, les Kurdes sont exclus des tables de négociation, notamment à Genève, donc, alors que c'est eux qui se battent sur le terrain, mais on les exclut.
Voilà, renforce l'amalgame avec Daesh et compagnie, ou Al-Qaïda, qui ne sont pas invités comme les Kurdes aux négociations.
Ça, c'est que la Turquie voulait installer comme amalgame, si on veut. Les États-Unis et la Russie sont, même si des fois ils disent des trucs inverses, mais ils sont très d'accord avec cette idée-là. Donc les Kurdes de Syrie sont bien, sont braves, machin, mais par contre politiquement ils sont inacceptables. Donc les États-Unis ne supportent pas, la Russie ne supporte pas, il n'y a aucun pays, aucune force du Moyen-Orient qui supporte l'expérience politique que les Kurdes de Rojava ils sont en train de mettre en place. Donc pour l'instant, ils n'ont pas d'autre choix. Mais le jour où ils ont le choix, ils choisiront ce choix pour écraser Rojava. Mais bref, pour l'instant, ils n'ont pas trop d'autres choix, car Rojava, quand même, est bien organisé dans tous les niveaux.
Alors, Edine, ce que je te propose, comme on est pris un petit peu par le temps, Je propose qu'on continue cette discussion sur Radio BAM, mais qu'on rentre l'antenne sur, sur Radio Zinzin. Donc on va dire au revoir.
Oui, puis on prendra le temps de se revoir une autre fois pour peut-être en parler un peu plus, parce que c'est vrai que c'est intéressant et ça vaut le coup de développer un peu plus les choses. Et pour finir, il y a souvent des manifestations de soutien au Kurdistan à Marseille, notamment quand il y a des attaques... on va dire très spectaculaire de l'État turc, hein, parce que comme tu l'as très bien dit, c'est au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans les temps qui arrivent en termes de soutien sur Marseille ou dans la région?
Donc, juste rapidement pour préciser, donc on était dehors pratiquement en action continuellement donc pendant 2 mois, les derniers 2 mois là jusqu'à la semaine dernière, donc pour sauver 149 personnes qui étaient coincées dans 3 immeubles, dans 3 sous-sols d'immeubles. Malheureusement, on n'a pas pu les sauver. L'État turc les a exécutés devant tout le monde, devant nos yeux. Donc, on avait des contacts téléphoniques avec ces personnes-là. Donc, quand je dis on, c'est les médias, les télés. Et ces personnes-là ont donné leur dernier souffle en direct. Donc, on a assisté à leurs exécutions et ça nous a fait beaucoup mal. Donc, en ce moment, donc nous, on se concentre un petit peu sur le névrose, le nouvel an kurde qui s'approche le 20 mars. Donc, nous, cette fois, on veut fêter le névrose à la plaine. Donc, voilà, la fête du névrose à la plaine. Donc, pour le 20 mars, peut-être on va se concentrer un petit peu sur ça parce que j'ai pas mal de retours de centre-ville de Marseille. Qui, malheureusement, pour certains, ne comprend pas pourquoi les Kurdes sont en train de manifester 3 fois par semaine. Ils sont là tout le temps. Donc, il y a des marchands, il y a des gens de marché qui sont un peu mécontents. Il y a les commerçants qui sont disent oui, mais on a marre d'eux. Mais il faut comprendre. Donc, nous, on ne peut pas fermer les yeux quand on assiste à des destructions des villes où on connaît des gens, où on a de la famille. Donc, on essaie de tout faire pour le sauver. Malheureusement, on n'a pas pu. Et ça nous a fait beaucoup mal de voir les gens. Souffrir comme ça. Pour l'instant, on va se fixer sur le 20 mars, névrose du 20 mars.
Très bien, mais merci Aïdine d'être venue. Une dernière chose, enfin moi je voulais.
On est dans le local, plus ou moins. J'ai vu qu'il y avait un mensuel qui vient de paraître là et qui est justement consacré à la question kurde. Est-ce que tu peux le présenter rapidement?
Voilà, donc cette mention s'appelle Merhaba Havalno, bonjour les amis ou les camarades, qui est préparée, je crois, si je ne me trompe pas, par les camarades de ZAD, qui sont au ZAD, où moi personnellement j'ai contribué aussi, donc ils ont pris un article de mon blog. Et en effet, pour les personnes qui sont un petit peu, qui veulent s'initier à cette question-là, je vous conseille vivement de lire cette mensuelle. Donc, c'était reprise des articles qui sont parus dans des médias gauche à droite, qui ont été traduits en français, notamment grâce à une copine turque, Naz. Donc, vraiment, c'est un travail formidable. Je crois qu'on peut le trouver sur le site.
Sur Mil-Babor.
Ah, ben voilà.
Sur Mil-Babor, vous pouvez le trouver, le télécharger gratuitement.
C'est super.
En français, on peut le lire.
Peut-être tu peux nous donner l'adresse de ton blog aussi, si tu veux, si ça intéresse des gens.
Alors moi c'est sur Twitter, c'est InfoRojava, et blog c'est pareil, blog Tumblr, je sais pas quoi, InfoRojava. Donc par contre c'est les gens sur Twitter, s'ils suivent InfoRojava, je pense qu'ils peuvent s'informer de la situation au Kurdistan, en Turquie, de très près. Ouais.
Ok, et aussi pour préciser que le CQFD de ce mois-ci de février...
est consacré à la Turquie et à la sale guerre d'Erdogan.
Voilà, et qui parle beaucoup du Kurdistan.
Oui, à lire. Et justement, je vais te poser une dernière question peut-être, allez, une dernière pour finir en beauté. On parlait tout à l'heure de la crise de l'accueil des réfugiés en France, et il y a des négociations qui sont en cours. On sait que ce que souhaitent l'État français et les États occidentaux, c'est de laisser les réfugiés qu'ils soient gardés par le Liban, la Jordanie et la Turquie. Est-ce que tu penses que dans le cadre de ces négociations, les Français peuvent être un petit peu amenés au niveau diplomatique à fermer les yeux sur cette sale guerre d'Erdogan?
C'est exactement ça qui se passe en fait depuis déjà 3-4 mois. Erdogan, pour forcer, en fait, pour justifier ses propos, ses menaces, donc ils ont organisé le premier vague. Et c'est la mafia turque avec l'État turc qui ont fait le passeur en fait, qui ont poussé les gens vers les frontières. Et puis il faut savoir une autre chose. Erdogan dit d'accueillir 3 millions de Syriens, entre 2 et 3 millions de Syriens. Mais il faut savoir qu'il y a seulement 250 000 qui sont gardés dans des camps. Et le reste, ils sont où?
Livrés à eux-mêmes.
livrés à eux-mêmes, sous les ponts, dans les parcs, dans les rues. Ils m'ont dit, ils travaillent pour 5 euros par jour. Les enfants travaillent à partir de 10 ans, voire moins. Ça me fait mal de le dire, mais il suffit de voir l'origine des prostituées en Turquie pour comprendre le dégât que cette guerre syrienne a causé sur la société syrienne. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe totale. Donc cette société donc, qui est cassée, qui se trouve réfugiée en Turquie, qui vivent dans des conditions, situations lamentables, et puis ça fait plusieurs années. Et puis, encore une fois, donc, des gros bras, des puissances, ils sont en train de négocier, je ne sais pas, sur la table, machin, mais vraiment, il n'y a rien pour le peuple, pour les gens, il n'y a rien, pratiquement, il n'y a rien. Même si on donne des sous à Erdogan, ces sous ne vont pas aller à ces gens-là, ça c'est sûr. Les sous vont aller où ? Les sous vont aller pour renforcer la politique d'Erdogan, la politique syrienne et la politique contre les Kurdes. Et la politique syrienne Erdogan, c'est quoi ? C'est défendre, c'est soutenir Al-Qaïda, Daesh contre Bachar ou contre les Kurdes.
Bah merci Aydin de ton témoignage et bonne soirée sur Radio Zinzine. Vous pouvez retrouver ces informations rediffusées à minuit et demain matin sur les ondes de Zinzine. Toujours bonne soirée.
Yeah.